Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si Accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Fin de match complètement folle ici au King Power.
Oh!
Et Demi Vardy entre dans la danse.
And it's Thierry Henry. And Henry is magnificent. And when you need a goal, you need Thierry Henry.
PL Zone.
Aguero.
Salim Bongali.
I swear you'll never see anything like this ever again.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la Première Ligue, le plus beau des championnats au monde et un championnat qui nous a encore régalé en cette saison 2021-2022, tant de moments, tant d'émotions et ce, jusqu'à la dernière journée. Bonjour Jérôme Sillon.
Bonjour Salim, bonjour à tous.
Bonjour Mathieu Faury, notre correspondant à Londres.
Bonjour tout le monde.
Vous étiez tous les deux à l'Etihad hier, oui, grand chanceux que vous êtes. Et vous allez nous raconter ces moments exceptionnels auxquels vous avez assisté. On va aussi y aller de notre bilan. La course au titre, la quatrième place obtenue par Tottenham, le flop United, le maintien in extremis de Leeds. PL Zone, le podcast, 20e et dernier épisode de la saison. C'est parti.
Ilkay Gundogan remet Manchester City à un but seulement d'Aston Villa. Nouveau retournement de situation, enfin les Sky Blues ont trouvé la faille. Raheem Sterling, le centre pour Ilkay Gundogan, le but de Rodri pour Manchester City. Et oui, de partout, ça y est, les Sky Blues sont revenus à hauteur. Quelle réaction de champion, quelle réaction d'homme de la part des joueurs de Guardiola. Kevin De Bruyne de service pour Ilkay Gundogan, et c'est la folie. C'est la folie,
c'est de
ici,
la folie.
À l'Etihad Stadium, l'entrée en jeu tonitruante d'Ilkay Gundogan, et tout a changé à l'Etihad, c'est fou, c'est dingue, c'est grand, c'est le foot, c'est la Première Ligue, et la délivrance, la voici, Manchester City est champion pour la quatrième fois en cinq saisons, c'est la dynastie Manchester City. Le plus grand club d'Angleterre du moment, c'est Manchester City.
Ne vous inquiétez pas, Jérôme Sion a bu son petit verre de lait chaud avec du miel, on est d'accord?
J'avais mes petites pastilles au miel dans mon sac qui m'ont bien aidé dans l'après-match, effectivement.
Je vous ai rarement vu partir comme ça, Jérôme, alors que sur RMC Sport, avant SFR Sport, vous en avez commenté des matchs, des grands moments, mais là, partir à ce point-là?
Oui, j'étais un peu en mode radio à l'époque d'RMC où je commentais, où on est parti dans les tours, c'est l'émotion d'abord. Et puis, il y avait une configuration particulière hier pour expliquer à nos auditeurs, c'est que en fait, on n'a pas commenté tout le match avec Johan Jourou, on était dans le multizone sur RMC Sport 1 et donc du coup, on n'intervenait que quand la parole nous était donnée ou quand il y avait un but, ou là, en l'occurrence, on coupait la parole.
Absolument.
Et du coup, en fait, on était moins dans le rythme du match, la voix était moins chaude et donc du coup, en s'enflammant, ben, la voix est un muscle. Donc du coup, on est parti dans les tours et on ne s'est pas claqué, heureusement, avec Johan, mais ce que vous ne voyez pas, c'est la réaction de Johan Jourou. On va essayer de vous la mettre sur les réseaux sociaux parce qu'on a filmé le postcom comme on le fait à chaque match. Il était comme un dingue.
Comme voilà. Un enfant, effectivement. Mais on l'entend un petit peu sur le troisième but, notamment. Juste, on a besoin d'images, justement. Alors, c'est un podcast radio, évidemment, Mathieu. Mais racontez-nous à 2-0 pour Aston Villa, Mathieu. Vous êtes au bord du terrain. Vous avez les tribunes juste à côté de vous, Mathieu. Qu'est-ce qui se passe dans les regards, dans les gestes, peut-être, des fans de City?
C'est comme la fin du monde. C'est un peu une détresse absolue. Moi, derrière le but, je suis derrière le but, malheureusement pas là où les derniers buts de City ont été marqués. Je suis là où Aston Villa marque le deuxième, Coutinho. Et après ça, je me retourne et je vois, forcément, c'est l'abattement total. On sait qu'un but de Liverpool suffit à faire perdre le titre à Manchester City. Et on approche déjà tellement vite de la fin du match, c'est le public qui est abattu. C'est comme sur le premier but. Et sur le premier but, en fait, le public s'était un petit peu repris. Quelques secondes après, il y en a déjà certains qui se lèvent, qui recommencent à applaudir « Common City, Common City ». Il y en avait une dizaine qui se levaient comme ça, et puis après, ça suivait assez vite. Mais là, sur le deuxième but, pas du tout. Ça met beaucoup plus de temps à reprendre espoir dans la tribune, parce que il reste une vingtaine de minutes, un peu plus, pour essayer de refaire le retard. Et là, ça a vraiment mis du temps pour qu'un supporter, et c'est le même à chaque fois, c'est un supporter de City qui est toujours là pour... Enfin, c'est toujours celui que je vois le plus expressif au bord de la tribune, derrière le but. C'est lui qui se relève en premier. Mais ça a mis vachement de temps parce que le désespoir, il était au maximum.
Ça faisait 17 ans que City n'avait pas remonté à un 2-0 pour finalement s'imposer 3-2 à l'époque face à Norwich. La semaine dernière, d'ailleurs, ils avaient failli le faire, hein, face à West Ham. Ils étaient menés 2-0, ils étaient revenus à 2-2. Mahrez avait raté un penalty. Et c'est peut-être ça, au final, qui fait que ce scénario est dingue. Parce que, Jérôme, honnêtement, on ne s'y attendait pas à ce qui s'est passé hier. Honnêtement, en préparant le match, on disait « Bon, Gerrard, Coutinho, les anciens Liverpool. » Mais malgré tout, on ne voyait pas un tel décalage et surtout une telle faiblesse en première période de City.
Oui, on a été très surpris par Manchester City. D'ailleurs, Jürgen Klopp a dit après le match hier qu'il aurait préféré que City gagne 5-0 tout de suite. Ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Et c'est vrai que le 2-0 de City, je ne sais pas si c'est la pression, je ne sais pas si c'est une sorte de lassitude physique que j'ai ressentie à un moment pendant la rencontre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas reconnu le Manchester City habituel. Il y avait un manque clairement d'idées, un manque d'inspiration, un manque de pressing aussi. On ne retrouvait pas les qualités, la recette habituelle des équipes de Pep Guardiola. Et donc voilà, donc c'est sûr qu'à 2-0, le petit regret, je pense, que peut avoir Liverpool, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais c'est peut-être de ne pas avoir marqué le fameux deuxième but qui aurait encore plus glacé l'Etihad. Parce que, comme l'a dit Mathieu, Les gens étaient pétrifiés, les gens étaient apeurés, ils étaient en train de se faire dessus en fait. Mm-hmm. Ils disaient le titre va nous échapper, c'est pas possible. Et je pense que si Liverpool marque le deuxième but qui permet à Liverpool d'être virtuellement champion, ce qui n'a pas été le cas à aucun moment hier, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué de renverser la vapeur.
On le rappelle d'ailleurs précisément, Liverpool a marqué ce deuxième but tôt, mais qui a été refusé pour hors-jeu. Un hors-jeu de Sadio Mané. À un moment donné, on entend Stéphane Guy d'un autre multizone qui s'emballe, qui crie. Et on voit ce drapeau être levé et donc tout arrêté, puisque effectivement le Sénégalais était hors-jeu. Tiens Mathieu, vous êtes rencardé, vous avez regardé surtout la presse locale. Que dit la presse autour de ce titre de Manchester City ?
Bah, par rapport au titre, on fait forcément un parallèle, on fait un pont par rapport à il y a 10 ans, avec ce commentaire qu'on avait justement dans notre générique tout à l'heure, de Martin Taylor, « I swear you'll never see anything like that ever again », je vous promets que vous ne verrez plus jamais quelque chose comme ça. Et on a tendance à recomparer un petit peu quand même, parce que forcément, c'est une remontée en fin de match, c'est un 3-2, c'est City qui est champion à la dernière journée, mais on en parlait hier avec Jérôme, le titre d'il y a 10 ans, il est encore plus exceptionnel, parce que évidemment, c'est le premier de l'ère City Group. C'est vraiment 2 buts dans le temps additionnel. Là, on est quand même sur une remontée de 3 buts dans le dernier quart d'heure, alors que Liverpool, même si au moment où Villa mène 2-0, Liverpool ne menait pas. C'est un péril extrême par lequel City est passé. Et la gloire, à la fin, elle est immense. Le Times cite « On ne pouvait pas croire que City perdait le titre de cette façon et on ne pouvait pas croire ensuite qu'il le regagnerait de cette façon non plus ». Mais globalement, en Angleterre, on est d'accord pour dire que c'est l'une des fins de saison les plus grandes de l'histoire de la Première Ligue. C'est Athletic, tout à l'heure, je regardais sur leur site, ils titraient simplement la dernière semaine la plus folle de l'histoire de la Première Ligue. Donc c'était peut-être pas la dernière journée la plus folle, c'est peut-être pas le sacre le plus fou, mais en tout cas, c'est un sacre de City qui vient s'ajouter aux enjeux qu'on avait en bas de tableau pour la course à la Ligue des Champions, et ça fait forcément un écho très très fort au sacre d'il y a 10 ans avec le but d'Aguero.
5 minutes 30, c'est le temps durant lequel les 3 buts de City ont été marqués. C'est vrai que ça devient des spécialistes, finalement, de se faire peur lors de la J38. Mathieu l'a très bien dit, évidemment, tout le monde repense à cet épisode de 2012. Et puis, il y a aussi 2019, où ils Brighton. Étaient menés à Brighton pendant que Liverpool avait ouvert le score. Là, virtuellement, ils n'étaient plus champions, ils avaient su réagir. Donc, ils aiment se faire peur. Mais Guardiola a dit qu'ils avaient demandé conseil au Real pour les remontadas.
Puisque le Real avait marqué 2 buts dans les arrêts de jeu et permis aux Madrilènes d'aller en prolongation pour au final s'imposer face à City en Ligue des Champions. Tiens, Riyad Mahrez au micro RMC Sport de Julien Laurence, dithyrambique sur son Manchester City.
À un moment donné, faut pas se voiler la face, faut pas se mentir. On domine ce championnat. Quand tu gagnes 4 fois en 5 ans, c'est que il n'y a pas de secret, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de... C'est qu'on met tous les ingrédients et on mérite, tu vois. Et voilà, tout le monde mérite. Tout le monde mérite, on a une équipe de fous, on a un club de fous, un coach de fous, franchement, magnifique. La première ligue, on n'a jamais lâché. Les coupes, on était toujours là. On est une équipe, on est pendant 4-5 ans, on est toujours là. Demi-finale, finale, Ligue des Champions, première ligue, plus de 90 points, il n'y a pas de secret. Chaque année, on est là jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on mérite toutes ces choses-là.
c'est affolant le discours de Riyad Mahrez. Un discours, d'habitude, c'est toujours très feutré, notamment avec lui. Là, il se lâche totalement avec de tels mots quand même. On mérite, on domine, on est au-dessus des autres.
Oui, il y a un titre déjà qui joue à la maison, donc c'est déjà très inhabituel. Donc c'était fantastique à vivre. Et oui, il a raison de dire que City domine. Mais City, en fait, est passé... tout près aussi quelque part, ça s'est joué à un point donc avec Liverpool, à un point de devenir presque has-been, parce que n'oublions pas que si City n'est pas champion d'Angleterre, City finit la saison sans le moindre trophée pour la deuxième fois seulement depuis que Pep Guardiola est l'entraîneur, c'était donc lors de la première saison 2016-2017, et finalement on est là aujourd'hui à se dire que City a effectivement remporté 4 des 5 derniers titres de champion, 6 titres en 11 ans même. C'est le club anglais donc le plus couronné de succès depuis l'arrivée d'Abu Dhabi aux commandes depuis le rachat par le Cheikh Mansour. Et donc en fait, ils sont en train de dominer la Première Ligue, qui est quand même, on le rappelle, le championnat le plus compétitif, le plus concurrentiel au monde. Ils sont en train de faire ce que Manchester United a réalisé pendant l'espace de 2 décennies, en fait, dans les années 90 et 2000, United avait remporté 13 titres. Mais là, c'est City maintenant qui a le pouvoir.
Absolument, parce qu'on regardait hein, depuis ce premier titre il y a 10 ans, donc, sur les 11 derniers championnats, puisqu'on inclut le premier, 6 titres remportés par City. On est bel et bien dans l'ère des Sky Blues. Le bilan de cette saison désormais, puisqu'on évoque aussi le bilan au-delà des matchs, 93 points pour City, 99 buts marqués, 29 victoires. C'est le troisième meilleur bilan de points sous Guardiola, le troisième meilleur bilan en nombre de buts, le troisième meilleur bilan en nombre de victoires pour le technicien à la tête des Sky Blues. Pep Guardiola, il voulait quand même de nouveau s'attacher sur cette saison, sur ce final, sur son équipe légendaire.
Nous sommes des légendes. Gagner dans ce pays, la Première Ligue, 4 fois en 5 ans, c'est parce que ces gars sont tellement, tellement spéciaux. On se souviendra longtemps de nous.
Et c'est très clair, c'est très simple. C'est vrai qu'on se souvient aussi du titre il y a 10 ans et on continue d'en parler de ce titre-là. Si on s'en souvient aussi et si on va continuer d'en parler, Mathieu, de cette saison, c'est notamment parce qu'il y a un Kevin De Bruyne, par exemple, le Belge, auteur d'une saison exceptionnelle, lui qui a obtenu le titre de meilleur joueur.
Bah absolument, De Bruyne, il obtient ce titre, c'est normal. C'est encore le leader d'une galaxie de joueurs offensifs, je pense, cette saison. Sur le début de la saison, peut-être que Bernardo Silva était encore plus incroyable, mais De Bruyne, j'avais fait une interview assez récemment à l'occasion des demi-finales de Ligue des Champions sur lui avec un journaliste du Independent. Et il est toujours vu comme le leader de l'attaque de Manchester City. C'est l'attaquant, le milieu offensif. Je dis l'attaquant parce que du système offensif de Guardiola, c'est le leader, c'est le numéro 1, c'est celui qui fait tout. C'est le meneur de jeu qui peut être dans la disposition du numéro 8, de l'ailier, du milieu offensif. C'est un joueur offensif moderne, versatile, qui est capable de tout, de la vision du jeu, qui est capable de tout organiser, de distiller ses longs ballons incroyables, de marquer ses buts splendides. Et c'est normal que, encore une fois, c'est lui qui a tenu le flambeau de l'attaque de Manchester City, qu'il soit récompensé par ce titre de meilleur joueur et de vainqueur de Première Ligue, c'est logique pour lui.
N'oublions pas d'où il revient, Kevin De Bruyne, l'été dernier, on se rappelle, déjà à la finale de la Ligue des Champions contre Chelsea à Porto, où il se blesse en l'occurrence, où Rudiger lui met un tampon, lui casse le nez, et du coup il rate la suite de la finale. Ensuite, il y a l'Euro, durant lequel il se fait très mal à la cheville, on parle d'une opération qui finalement n'a pas lieu, mais le début de saison de Kevin De Bruyne n'est pas bon, on le sent émoussé, il n'est pas physiquement prêt à jouer, il attrape le Covid, et finalement, le fait d'avoir attrapé le Covid, de se reposer, d'avoir arrêté de s'entraîner, lui a fait beaucoup de bien. Et après, à partir du mois de décembre, il a volé sur la Première Ligue. Et d'ailleurs, c'est un De Bruyne un peu nouveau finalement qu'on a vu cette année parce qu'il était plus buteur que passeur.
15 buts marqués pour le Belge. Jamais il a atteint ce niveau-là en Première Ligue. Le technicien et le milieu de terrain belge, on le rappelle, des changements donc à venir désormais pour Manchester City puisque Fernandinho qui a été fêté hier va quitter le club. Gundogan, on se pose des questions. Lui qui a marqué 2 buts hier, l'Allemand. Haaland qui arrive. Oui, les chantiers, même à City, vont arriver, Jérôme.
Oui, alors c'est vrai qu'on a effectivement une nouvelle ère qui va s'ouvrir parce qu'il se dit aussi qu'en défense, ça pourrait bouger. Gundogan, a priori Guardiola souhaite le conserver mais il lui reste plus qu'un an de contrat et il y a beaucoup de rumeurs d'un possible départ. Lui, il a dit qu'il voulait partir soit en MLS aux États-Unis soit en Turquie, mais il y a également d'autres grands clubs qui sont intéressés. Raheem Sterling aussi pourrait partir. On sait que Gabriel Jesus est fortement convoité par Arsenal, mais Tottenham viendrait de se mettre dans la danse. Donc oui, il y a beaucoup de choses. Il y a Haaland qui arrive, il y a également Julian Alvarez,
absolument,
l'attaquant de River Plate qui a déjà signé, mais ils vont aussi se renforcer encore au milieu en défense. ça va être chaud, compliqué pour aller le chercher la saison prochaine.
Absolument, 4 titres en 5 ans, c'est phénoménal. Mais si Guardiola, si City l'a eu, c'est aussi parce qu'il y a un adversaire.
The magnitude of the achievement is related.
L'impact de vos succès est directement lié à la force de votre rival. Et je n'ai jamais vu dans ma vie une équipe comme Liverpool, dont je sais que c'est dur, mais félicitations à eux. Ils nous aident à être une meilleure équipe, saison après saison.
Le Catalan qui évoque donc les Reds qui se sont imposés hier 3-1 en étant tout de même menés rapidement 1-0. Mané, Salah et Robertson pour les buteurs côté Liverpool. Et c'est vrai, Mathieu, Jérôme le sous-entendait tout à l'heure, on est resté à 1-1 pendant longtemps et au final, on le rappelle, jamais Liverpool n'a été leader même une seconde hier. Mathieu, c'est peut-être ça le défaut de Liverpool, de ne pas avoir pu mettre un petit peu la pression sur City.
Bah ouais, exactement, c'est ce qu'on se disait avec Johan et Jérôme hier à la sortie du stade. On se demandait Liverpool, le fait de ne pas avoir mené au score et donc d'avoir précipité Manchester City temporairement deuxième sur cette dernière journée, ça aurait mis plus de pression sur les joueurs de City, ça aurait mis un froid encore plus grand encore sur l'Etihad. Parce que c'est vrai que si Manchester City avait dû courir au score après le score avec la pression de la victoire de Liverpool, peut-être qu'ils auraient été un peu plus précipités, peut-être qu'ils auraient été un peu plus paniqués, alors que là, bon, si effectivement les deux buts de Liverpool arrivaient, mais on ne le savait pas encore. La pression, elle était un petit peu moins diminuée. Et puis, depuis le deuxième but de Coutinho, ils étaient sur un vrai élan qui, au final, les a amenés à marquer ces trois buts en 5 minutes 30. Peut-être qu'avec plus de pression, avec un peu plus de peur, d'anxiété, ça ne se serait pas passé de la même manière. Ils auraient fait cette erreur qui aurait tout changé. Et donc, c'est sur ça que Liverpool peut avoir un regret, effectivement.
Alors c'est beau d'être supporter de Liverpool en ce moment parce qu'il remporte beaucoup de trophées depuis que Jurgen Klopp est arrivé, mais en même temps c'est dur, vous vous rendez compte quand même, 2019, 2022, vous échouez à chaque fois à un point du titre.
Et combien de points? Encore une fois, 92 points là, hein, vous devez être champion à 92 points.
Mais mille fois.
C'est ça, 97 points il y a, en 2019.
C'est terrible.
Et vous n'arrivez pas à obtenir ce titre de champion, mais là encore, comme Pep Guardiola qui a encensé Liverpool, mais Jurgen Klopp aussi est beau joueur.
Félicitations à Manchester City, à Pep Guardiola et aux joueurs, au staff et à tous les supporters. C'était une course difficile, une course pour le titre. On l'a rendue excitante, mais vous avez un point de plus, ce qui fait de vous les champions, c'est mérité. Vous êtes bien battus aujourd'hui, on s'est bien battus aujourd'hui.
Les Reds qui, je le rappelle, n'ont perdu que deux fois cette saison, là où City a perdu trois fois. Les deux défaites face à West Ham, face à Leicester. Il y a quand même eu 8 matchs nuls pour Liverpool cette saison. Alors j'écarte les deux nuls face à City, mais un nul contre Brighton, 2 contre Tottenham, 2 contre Chelsea et même un nul contre Brentford. C'est là, Jérôme, où aussi Liverpool perd le titre.
Oui, c'est pas en tout cas à la maison parce qu'ils ont été la seule équipe invaincue à la maison. Donc oui, ça s'est passé surtout en déplacement. C'est vrai que les Reds ont eu également peut-être un calendrier un tout petit peu plus chargé. Ils sont allés au bout de la League Cup, au bout de la FA Cup, même si d'ailleurs ils battent City en demi-finale. Voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. Franchement, que reprocher aujourd'hui à Liverpool? Peut-être qu'ils avaient une poule de Ligue des Champions peut-être un peu plus compliquée aussi. Souvenez-vous, il a fallu quand même batailler Atlético, AC Milan, Porto, quand City n'avait que le Paris Saint-Germain vraiment dans sa poule, peut-être un peu plus simple aussi. Donc, ça joue à deux petites choses. On pensait que Liverpool avait l'effectif avait doublé toutes les positions. Pour une fois, peut-être qu'ils avaient la même profondeur de banc, en tout cas, que City. Voilà, il en manque peu, on l'a dit. Ils doivent être champions tous les coups, presque, avec un tel total de points.
Oui, on évoquait il y a quelques instants le futur et le projet futur pour City. Pour Liverpool aussi, on sait qu'il y a toujours des incertitudes. Mané et Salah, officiellement, n'ont toujours pas prolongé. Il y a des petites interrogations au final aussi, Jérôme, avec les Reds.
Oui, Sadio Mané qui est convoité par le Paris Saint-Germain, par le Bayern Munich. Donc, on se demande s'il va rester. Mohamed Salah, la prolongation prend plus de temps que prévu. Son agent et lui aussi font durer le suspense. Ils ont officialisé aujourd'hui le recrutement de Carvalho, pardon, le joueur de Fulham. Donc, voilà, ils ont quand même pris Luis Diaz aussi l'hiver dernier. Ils préparent déjà l'avenir et l'effectif, il est quand même... On sait que Jota, Diaz vont prendre le relais à moyen terme de Mané et Salah. Mais oui, il y a encore quand même quelques réglages à effectuer pour continuer à être très performant et être le grand rival de Manchester City.
Bon, l'une des rares satisfactions à Liverpool tout de même hier, c'est Mohamed Salah qui est co-meilleur buteur du championnat avec 23 réalisations. Co-meilleur buteur car...
La frappe de Son ! C'est en fond !
Oumilson !
Le voilà ! Le meilleur buteur de la Première Ligue ! Il est là ! Il est coréen ! On a essayé depuis 75 minutes de le faire marquer, ça ne voulait pas rentrer. Et là, finalement, ça rentre coup sur coup deux fois. 23 buts cette saison ! Et Oumilson est meilleur buteur ! Il est meilleur buteur de la Première Ligue ! C'est formidable !
Eh oui, Xavier Barret qui s'est emballé sur Heung-Min Son. En même temps, c'est vrai qu'il est phénoménal, le Sud-Coréen. Victoire 5-0 hier des Spurs qui finissent donc 4e du championnat et seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils terminent devant Arsenal qui s'est imposé aisément face à Everton 5-1 hier. Julien Taxis qui était au commentaire de cette partie. Bonjour Julien.
Salut les amis.
Alors c'est clairement pas hier que Arsenal perd évidemment cette 4e place, mais avant, sur quelques matchs clés, notamment face à Tottenham, on va en parler, et également aussi face à Newcastle la semaine dernière, où les Gunners se sont clairement sabordés en fait.
Oui, il y a eu deux matchs effectivement. Il faut rappeler qu'Arsenal avait quand même 4 points d'avance avant de rencontrer Tottenham dans le North London Derby, défaite contre Tottenham. Ils avaient encore leur destin en main lundi dernier contre Newcastle. Ils se sont, comme tu l'as dit Salim, sabordés. Ils ont fait un match en dessous de tout, ils se sont fait marcher dessus. Il y a eu des déclarations très fortes de Granit Xhaka juste après cette rencontre sur le manque d'implication, sur un match que les Gunners ne pouvaient pas faire pour aller justement chercher cette Ligue des Champions. Alors après, on va peut-être développer. Moi, je pense que la saison est globalement réussie, mais forcément qu'il y a de l'agacement, de la frustration, même si hier, on a vu une ambiance un petit peu de fête, de kermesse à l'Emirates, mais il y a de l'agacement de voir cette saison se terminer ainsi, d'autant plus que c'est le rival qui termine quatrième.
Tiens, soyons clairs, et si vous évoquez ces chiffres, et plutôt cet aspect positif, sur les 3 dernières saisons, en incluant celle qui vient de se terminer, il y a 2 saisons, donc 56 points au final, la saison dernière, 61 points, cette saison, 69 points, c'est sur ça que vous voulez aller ?
Oui, bah alors on termine, Arsenal termine 2 fois 8e, n'avait pas de Coupe d'Europe cette année pour la première fois depuis plus de 25 ans et on a la sensation, on l'a ressenti tout au long de la saison, faut quand même voir de là où on part avec 3 défaites, 9 buts encaissés, 0 marqué, certes City,
Chelsea. Je me souviens même Arteta était critiqué, on se disait qu'il fallait se débarrasser presque.
Catastrophe, donc faut recontextualiser et se dire qu'il y a eu un recrutement intelligent. Arsenal a été la plus jeune équipe de Première Ligue, il y a un cadre qui est posé, un cadre d'avenir finalement, et aujourd'hui Mikel Arteta explique que voilà, maintenant que le cadre est posé, il va peut-être falloir aller chercher des joueurs un petit peu plus expérimentés pour les encadrer.
N'oublions pas qu'Arsenal était le club le plus dépensier de Première Ligue l'été dernier et effectivement ils ont recomposé une large partie de l'équipe, mais après si on regarde objectivement parlant, l'effectif, on va dire même allez, l'équipe type d'Arsenal et l'équipe type de Tottenham, il y a au moins 2 joueurs de classe mondiale, si ce n'est 4 à Tottenham. Je vais évidemment citer Son, Kane, Loris et peut-être Romero. Vous en comptez combien, Arsenal, des joueurs de classe mondiale ?
Qui moi, sont peut-être des joueurs d'avenir, d'avenir.
Allez, Bukayo Saka.
Smith Rowe peut-être, on verra Ramsdale s'il atteint un certain niveau.
Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
On en est
donc moi, je pense qu'Arsenal est à sa place.
Et si on parle d'avenir, Arsenal va avoir une vraie problématique, vous le savez, puisque les 2 numéro 9, Lacazette et Nketiah, sont en fin de contrat, ne vont vraisemblablement pas prolonger. Il y a beaucoup de noms, tu as parlé de Gabriel Jesus, Dominique Calvert-Lewin notamment. Arsenal va devoir, ça c'est sûr, recruter dans ce domaine-là.
C'est vrai, Mathieu Fauré, vous avez eu l'occasion d'aller à l'Emirates très régulièrement ou de rencontrer aussi des fans d'Arsenal régulièrement pour RMC Sport. Et c'est vrai que cette saison d'Arsenal, elle semble pas si mal que ça, mais il y a cette mini-frustration quand même, j'ai envie de dire, surtout vu la fin de saison.
Bah, c'est la blague que j'ai fait à Mikel Arteta en début d'interview cette semaine. Je lui ai dit, bon, ça va être un sacré scénario là pour le film d'Amazon. Ça l'a fait rire. Mais je pense, il y avait un chauffeur de taxi, donc supporter d'Arsenal, qui me disait en tout début de saison, malgré les résultats, il me disait, si on termine pas quatrième, c'est catastrophique. On fait pas de Coupe d'Europe. On doit être capable de développer quelque chose et de finir quatrième, accrocher la Ligue des Champions. Mais comme vous le disiez, je pense que quand tu vois le rythme qu'a eu Tottenham depuis Antonio Conte, qui les a fait passer le 9e au mois de novembre à 4e en fin de saison pour la Ligue des Champions, je ne sais pas si Arsenal peut avoir beaucoup de regrets. C'est quand même une équipe, ça n'a pas un effectif aussi taillé que celui du top 3 et même que Tottenham. C'est une équipe, je trouve, qui a quand même eu une très belle progression. Il faut se rappeler qu'elle a des cadres très très jeunes. Saka qui est en 2001, Odegaard qui est devenu capitaine récemment, qui est de 98. Nketiah qui est devenu titulaire et qui s'est mis à marquer alors qu'il n'avait jamais été en puissance sous le maillot d'Arsenal. Il est devenu. Mais voilà, c'est une équipe très très jeune. Je ne pense pas que tu puisses avoir beaucoup de regrets quand tu vois déjà la progression qu'elle a eue. Oui, elle flanche contre Newcastle à 2 journées de la fin, c'est regrettable. Une telle défaite dans le North London Derby, pareil, mais est-ce qu'Arsenal avait le potentiel de faire mieux ? Je pense qu'ils ont un gros potentiel pour l'année prochaine, une marge de progression. Qu'il faut mieux regarder dans ce sens-là.
Arsenal qui sera donc en Europa League, Mathieu l'évoque, Tottenham, c'est vrai que c'est Spurs qui semblait vraiment au fond lorsque Antonio Conte arrive, et Tottenham avec le technicien italien, avec des choix forts aussi, son schéma de jeu préférentiel, ça a vraiment fonctionné.
Tottenham est passé de l'équipe qui courait le moins à celle qui court le plus en Première Ligue, ça fait quand même une grosse différence. Oui, non, Antonio Conte, il a fait un travail absolument monumental, on en parlait avec Hugo Lloris à l'issue d'un match, on avait eu le plaisir de discuter avec lui un petit peu en off à l'issue de la rencontre, il nous disait mais qu'est-ce qu'on travaille tactiquement. en fait, depuis qu'ils sont éliminés de Coupe d'Europe, ça leur a fait finalement beaucoup de bien parce qu'il a besoin de temps pour mettre en place son dispositif, faire comprendre ses principes de jeu. Et il insiste beaucoup sur la tactique Antonio Conte. Les joueurs ont adhéré à ce projet-là. Après, ça va aussi bouger beaucoup chez les Spurs parce qu'il veut plus de joueurs de classe mondiale encore, de grands joueurs pour pouvoir jouer le titre. Parce que même s'il considère que c'est un trophée de finir quatrième, Antonio Conte, il en veut encore plus s'il reste.
C'est là le truc aussi, vous évoquez les joueurs que Conte veut pour faire progresser son effectif, des joueurs d'expérience. Arsenal, c'est aussi ce qu'Arteta a sous-entendu aussi en après-match, au-delà des prolongations éventuelles de contrat, c'est il veut des joueurs un peu cadres aussi, mais au final, dans le nord de Londres, on va devoir recruter des deux côtés.
Oui, on va devoir recruter Arsenal, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier aussi que la saison est réussie du côté d'Arsenal, peut-être aussi parce qu'on a eu un match par semaine à jouer. La saison prochaine, les journées de Coupe d'Europe vont être très très rapprochées. Quand on voit finalement la manière dont termine Arsenal cette saison, on les a sentis quand même un petit peu éreintés sur la fin, en manque de diesel pour terminer. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir recruter en qualité et en quantité, c'est une certitude.
Oui, et on le rappelle aussi au milieu de terrain, il y a toujours ces interrogations parce que on pense à l'ancien joueur d'Anderlecht, dont Sambilo Konga qui n'a pas performé forcément, non. Thomas Partey qui est régulièrement blessé, Granit Xhaka qui est parfois suspendu. Cette zone de terrain, notamment, va être l'une des zones clés peut-être à Arsenal aussi.
Oui, il faudra recruter.
Elle est née en fin de contrat aussi.
Elle n'est ni en fin de contrat qui est en discussion.
Il mais... se dit que ça, qu'il pourrait prolonger. Ouais.
Ouais, non, il y a clairement quelque chose à faire dans ce registre-là. Et puis j'insiste sur le poste de numéro 9. Peut-être un défenseur central. Saliba, pas Saliba, on n'a pas d'issue pour l'instant sur ce dossier-là. Mais Arsenal, pour exister non seulement dans la lutte pour le top 4 et jouer sur les deux tableaux, va devoir recruter, sûr.
Bon. Tout le monde ne sera pas servi, hein, parce que Newcastle veut recruter fort avec le projet, Aston Villa commence à recruter fort, Arsenal, Tottenham, bon.
Et West Ham aussi qui veut recruter fort aussi, c'est toujours important de le rappeler aussi. Merci beaucoup Julien Taxis, en tout cas d'avoir évoqué et Arsenal et Tottenham, cette course à la quatrième place, à l'avantage donc des Spurs. Et on va continuer dans notre PL Zone, le podcast, à évoquer peut-être le flop. Oui, l'un, si ce n'est le flop de cette saison, Manchester United. Car oui, les Red Devils ont encore une nouvelle fois perdu un match hier. C'était tout sauf incroyable hein, de les voir perdre. 12 défaites cette saison. La 12e donc hier face à Palace, 1-0. C'est le pire record, pardon pour ce thème qui n'est pas très beau, mais qu'au pire record du club, 16 victoires simplement pour Manchester United. On n'avait pas
même
vu.
Même pas un match sur deux.
C'est ça, on n'avait pas vu ce chiffre, un tel chiffre depuis 31 ans, saison 1990-1991. Et tiens, un élément presque symbolique, Mathieu, Jérôme, la différence de but, zéro. Différence de but de zéro. Ils ont pris autant de buts qu'ils en ont marqué. On se dit, Mathieu, que le chantier s'annonce gargantuesque pour Eric Ten Hag.
C'est ça, absolument. Et finir avec un goal average de zéro, même si au final, la casse, elle est limitée en accrochant l'Europa League. C'est encore contraire aux ambitions du club. Manchester United était vraiment sur une dynamique la saison dernière parce que, bien qu'il n'y avait pas de grand numéro 6 comme Manchester United en recherche 1, bien qu'il n'y avait pas de grand numéro 9 comme Manchester United l'avait eu, a obtenu cet été avec Cristiano Ronaldo, il y avait une certaine dynamique autour des jeunes, autour de Marcus Rashford, autour de certains joueurs comme Luke Shaw. Et il y a beaucoup d'éléments que United avait la saison dernière qu'ils ont perdu. Et là, il faut tout reconstruire parce qu'effectivement, tu n'as plus rien des forces que tu avais l'an dernier. Cette saison, tu ne sais pas trop sur quoi te baser à part l'individualité Cristiano Ronaldo qui, bien sûr, a fait la différence. Mais là, la reconstruction, elle doit se faire dans l'organigramme du club. C'est un peu comme au Paris Saint-Germain. Ça a déjà commencé avec Ralf Rangnick qui est venu préparer un petit peu le terrain pour... Eric Ten Hag qui va rester consultant, Ralf Rangnick, malgré son poste de sélectionneur. On a vu qu'il y a déjà des changements au niveau de l'organigramme, dans les recrutements, etc., dans la direction du club. Et c'est des changements qui doivent se faire surtout dans les hautes strates de Manchester United avant de faire les choix sur le terrain. Mais il y a du boulot.
Ouais, on a vu aussi autour hein, d'Eric Ten Hag, avec Steve McLaren notamment, qui va arriver officiellement en tant qu'adjoint d'Eric Ten Hag. Mais c'est vrai que j'utilise ce terme encore une fois, gargantuesque, Jérôme, on se dit qu'il y a tellement de choses à faire.
Alors, déjà, moi, c'est vrai qu'ils étaient en progression, les Red Devils. Ils finissent deuxième de Première Ligue. Je pense qu'ils ont surperformé, peut-être, oui, la saison dernière. Et autant là, ils ont sous-performé parce qu'ils finissent à 35 points de Manchester City. Mm-hmm. C'est monstrueux. Bon, il faut rappeler que l'écart moyen de United avec le champion depuis que Sir Alex est parti à la retraite, c'est 25 points. Donc là, on est encore au-delà de ce gap-là. Wow. Donc,
déjà 25 points, c'est colossal.
C'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses à régler. D'abord, effectivement, ce qu'il faut faire, de toute façon, c'est changer la mentalité. Il y a beaucoup. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il va falloir régler aussi, c'est que c'est un club où il y a beaucoup de fuites dans la presse. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Et beaucoup de joueurs ont dit que l'ambiance était toxique cette saison. Donc, il y a vraiment un état d'esprit à restaurer. Et ensuite, effectivement, un effectif à renouveler. Et on était tous d'accord l'été dernier pour dire que les arrivées de Sancho, les arrivées de Varane allaient renforcer l'équipe. Voilà, ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel joueur qui est important. Il faut redonner à Bruno Fernandes confiance en lui. Mais je pense que United, avec Eric Ten Hag sur le banc et avec d'autres joueurs, a les moyens vraiment de redevenir un grand Angleterre très rapidement.
Donc Ralf Rangnick, on l'a dit, qui va rester dans le giron de Manchester United comme conseiller du club, a expliqué hier que 10 des 11 joueurs qui ont démarré hier seraient à Manchester United la saison prochaine. Sous-entendu, De Gea, Lindelof, Maguire, Dalot, Telles, Fred, Bruno Fernandes, Elanga, McTominay, Mejbri, pas Edinson Cavani qui était titulaire hier, mais ça a été officialisé, il quitte bel et bien le club. D'ailleurs, il nous apprend que De Gea sera là, c'est Dean Henderson qui doit être ravi évidemment. Cristiano Ronaldo
partir à Newcastle, a priori.
Ah, c'est ce qui est évoqué. Cristiano Ronaldo, lui, en conférence de presse ce matin, évoqué par Eric Ten Hag. Et Eric Ten Hag a expliqué que le Portugais allait entrer bel et bien dans ses plans. Alors, on lui a posé la question, mais comment est-ce qu'il va entrer dans vos plans? En marquant des buts. C'est assez simple. Mais est-ce que CR7, quand on voit le jeu de l'Ajax, vous avez régulièrement commenté l'Ajax, Jérôme, pour RMC Sport en Ligue des Champions, on dit que Cristiano Ronaldo n'est pas Ten Hag compatible, non?
Mais non, parce qu'il y a un vrai doute. La façon de jouer d'Eric Ten Hag se rapproche de celle que voulait mettre en place Ralf Rangnick et qu'il n'a pas réussi à mettre en place parce que les joueurs étaient réticents, d'abord, et parce que Cristiano Ronaldo n'a plus les capacités d'aller au pressing et d'être le premier défenseur de l'équipe quand l'équipe n'a pas le ballon. Donc je vois pas pourquoi Ronaldo, ce qu'il n'a pas réussi à faire cette saison, il le ferait parce qu'Eric Ten Hag arrive. Donc je pense qu'il y a une part de communication derrière tout ça. Eric Ten Hag sait le poids que représente Ronaldo dans le foot mondial. Il sait que son nom par rapport est tout petit et donc il a envie de se mettre dans la poche tout simplement. Il a envie de le caresser dans le sens du poil, de lui faire des compliments pour essayer de s'appuyer sur lui à la fois sur le terrain, mais peut-être aussi en dehors du terrain. Ce qu'il n'a pas assez fait, parce qu'évidemment qu'il a fait une grande saison, Cristiano Ronaldo. Mais on attendait aussi que ce soit peut-être le guide de la nouvelle génération, et peut-être que là, il y a une implication plus forte à avoir pour Cristiano Ronaldo de ce côté-là. Mais oui, moi, je pense que c'est de la com' de la part de Ten Hag. Il veut juste se le mettre dans la poche pour éviter de se créer un problème dès maintenant.
Bon, Mathieu, les supporters du United vont en tout cas, pour la saison prochaine, devoir être patients aussi.
Absolument, il faut de la patience. Et comme disait Jérôme, il y a l'interrogation autour de Ronaldo, quelle efficacité il peut avoir, quel rôle il peut avoir. On avait des échos à l'entraînement où effectivement, il donnait vraiment du fil à retordre à Rangnick parce qu'il n'était pas dans le coup des instructions. Il n'était pas dans le pressing, dans la répétition des schémas, des efforts. C'était un peu l'élément dissident de l'entraînement. Heureusement, ça ne se voyait pas pendant les matchs puisque c'est lui qui convertissait quand même les occasions de United. L'équipe se reposait entièrement sur lui. Mais évidemment qu'il faudra de la patience parce que Ronaldo, c'est la seule certitude vraiment de ton effectif, même pour des cadres comme Varane en défense, enfin pour des grands joueurs comme Bruno Fernandes au milieu, comme Varane en défense, tu te poses des questions par rapport à leur forme, surtout par rapport à Varane, quel coéquipier il aura en défense centrale, est-ce que Maguire va suivre? Et j'écoutais un podcast de fans de Manchester United ce matin, ils se disaient, va falloir faire les pas en avant, va falloir aller dans le bon sens. Mais il ne faudra pas que la fanbase de Manchester United s'attende à regagner le 21e titre de Premier League l'an prochain, ça c'est sûr.
La patience qui passera aussi donc par l'Europa League, puisque Manchester United évoluera dans cette compétition, puisque les Red Devils se sont qualifiés hier pour la phase de poule avec sa 6e place. Le 7e, je vous le rappelle, c'est West Ham qui ira en barrage de Conference League. D'ailleurs, on notera que CR7 va donc jouer l'Europa League. Ça fait une vingtaine d'années qu'il n'a pas joué cette compétition, puisque depuis ce moment-là, il jouait la Ligue des Champions. Tiens, derrière cette thématique, désormais la dernière. Le maintien avec Leeds qui est toujours là.
It's a poor corner. It comes out for Harrison. He'll try the drive. Yeah! Jack Harrison has scored for Leeds.
Get out!
A massive moment for Leeds United. The ball flies beyond Raya into the far corner of the net. And now all around us and on the far corner of the ground. And it's absolute pandemonium. Pandemonium here in West London. Harrison's goal, Brentford 1, Leeds United 2, oh yes, get him.
Là, je crois qu'il avait besoin de beaucoup de pastilles au miel. Là,
ouais, je crois qu'il a perdu sa voix lui aussi.
Exactement, la joie du commentateur de la chaîne locale de Leeds pour le maintien du club obtenu hier. Leeds qui a pourtant démarré dans la zone rouge, hein, cette 38e et dernière journée. Ça faisait 11 ans qu'on n'avait pas vu une équipe se maintenir en étant dans la zone rouge à la 37e journée. Victoire 2-1 sur la pelouse de Brentford. Mathieu, Leeds a réalisé un énorme coup en tout cas.
C'est un énorme coup, un énorme exploit, ouais. Leeds et Burnley, c'était les deux équipes qui restaient dans la balance pour la descente. Deux équipes qui avaient échangé d'entraîneur à peu près au même moment. Et comme quoi, Jesse March, on voit qu'il a réussi à créer un état d'esprit, un élan, une implication au sein de ses joueurs. Sur la vidéo hier où il célèbre le maintien, Il disait, les gars, je vous disais depuis le début que vous êtes le meilleur groupe de joueurs en termes de solidarité, en termes de camaraderie que j'ai eu de ma carrière. Donc il mettait ça au-dessus de la psyche et des clubs qu'il avait eu avant. Et on voit qu'il a réussi à créer quand même cet état d'esprit, cette niaque qui fait que sur la fin, on peut aller chercher un maintien. Malgré les résultats précédents, c'est ce qu'on disait en Angleterre quand j'en parlais à gauche à droite, on voyait quand même Burnley se maintenir. Burnley qui avait plus de certitude, on se disait une équipe un peu plus solide. On ne voyait pas Leeds aller faire un résultat sur la pelouse de Brentford, qui est vraiment une très belle équipe, même sur cette fin de saison. Et au final, ouais, c'est cet état d'esprit qui a été créé ces dernières semaines à Leeds qui leur permet de faire la différence à la fin de la fin.
Et en plus, on voyait Burnley s'imposer à domicile face à Newcastle, ce qui n'a pas été le cas puisque les Magpies se sont imposés 2-1. Mais maintenant, j'ai envie de dire, c'est déjà après Jérôme, parce que Leeds a réussi à se maintenir la dernière journée. Bien joué Jesse March. Mais il y a des joueurs qui sont désirés par d'autres équipes. On parle de Calvin Phillips, peut-être Rafinha, peut-être même Harrison. Il va falloir déjà reconstruire aussi.
Oui, alors après, ça va être une nouvelle philosophie qui va se mettre en place parce que Jesse March a dû faire avec l'effectif qu'avait composé Marcelo Bielsa. Je pense qu'il faut aussi associer d'ailleurs l'Argentin à ce maintien de Leeds United. Donc voilà, c'est un super boulot qui a été réalisé par Jesse March malgré les doutes du côté des supporters. Je pense que les joueurs étaient surentraînés. Évidemment, on était arrivé au bout du système Bielsa. Maintenant, une intersaison arrive. Évidemment, Calvin Phillips va être très sollicité. On parle de United, on parle de City, on parle même de West Ham et de clubs londoniens. Absolument. Qui seraient intéressés par Calvin Phillips. Donc lui, je pense qu'il va partir. À lui de faire le bon choix, même s'il est souvent blessé. Rafinha aussi risque de partir. Mais je pense que Leeds est suffisamment attractif. C'est une très bonne nouvelle, je trouve, pour la Première Ligue, de garder un club aussi attractif, un club aussi légendaire.
Absolument.
Dans la Première Ligue. Donc je pense que je m'inquiète pas pour eux, ils trouveront des joueurs et qui colleront peut-être un peu mieux aussi à ce que Jesse March souhaite mettre en place.
Et en tout cas, on notera hier aussi ces images incroyables de joie à l'issue de la partie, notamment Rafinha dans la tribune
la
des fans de Leeds. Et la photo, c'est digne d'un tableau le coup, quand on voit cette joie du Brésilien. La fin de PL Zone, le podcast, épisode 20, dernier épisode de cette saison. Merci à vous Mathieu Foury en direct de Londres, merci à vous Jérôme, merci à Julien Taxis passé avec nous, un grand merci à Samantha Zweck, immensément précieuse durant tous ces podcasts, merci à Julie Dereau, à Adrien Paré également à la réalisation de cette émission, merci aussi à Flora Moussi et Loïc Moreau, et merci surtout à vous, car ce podcast c'est le vôtre avant tout, et n'oubliez jamais, même si West Ham finit 7ème du championnat, comme un New Irons. Ciao.